Radio Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal à la présentation Lievin Bouinga. Au sommaire de cette édition, la série noire continue sur nos lacs. Plus de 40 morts enregistrés lors du naufrage survenu hier mardi sur le lac Maïndombé. Une baleinière a chaviré à une trentaine de kilomètres de cette ville. La surcharge serait la cause de cet accident lacustre. Détail dans un instant. Situation humanitaire critique dans plusieurs villages du territoire de Lubero, conséquence des combats entre les FRDC et le M23. La société civile locale appelle à une intervention rapide du gouvernement et de ses partenaires pour venir en aide à ces populations vulnérables. L'invité de ce journal est le professeur Peter Lambert. Il est co-auteur de l'article « Les baleinières en RDC, un couteau à double tranchant » avec les professeurs Roger Ambongui et Emmanuel Makoka. Cet entretien nous permet de découvrir les causes des naufrages récurrents sur le fleuve et nos lacs. Bonjour à tous. Encore un naufrage sous le lac Maïndombé. Les sources du gouvernement provincial parlent de plus de 20 morts comme bilan provisoire et le sénateur Anissé Babanga, élu d'Inongo, parle d'une quarantaine de morts. Il s'agit d'une baleinière qui a chaviré à une trentaine de kilomètres de cette ville. D'après nos informations, la toiture de l'embarcation s'était cassée en pleine navigation à cause de la surcharge. Pour l'instant, il n'y a pas de bilan définitif et la recherche des corps est lancée. Le sénateur Anissé Babanga plaide pour une mobilisation générale face à ce drame qui vient encore une fois de frapper la province du Maïndombé. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Selon le sénateur Anissé Babanga, cette embarcation en bois qui quittait le village Isongo pour la ville d'Inongo transportait à son bord plusieurs passagers, dont les commerçants et aussi des femmes et des enfants, ainsi que des marchandises. C'est dans l'après-midi de mardi qu'elle a chaviré sur le lac Maïndombé. Pour la même source, les mauvais états de cette baleinière ainsi que la surcharge sont les principales causes de cet accident qui a occasionné plusieurs morts. Anissé Babanga.
Malheureusement, la toiture de la baleinière s'est effondrée. Alors tout ce qui était au-dessus est tombé sur les gens qui étaient dans la baleinière. Selon les informations de part et d'autre, on nous parle de 40 corps retrouvés. Mais il y a d'abord le mauvais état de la baleinière. Et la baleinière n'a pas pu supporter la charge de toutes les personnes et des marchandises qui étaient au-dessus de la baleinière. Ailleurs, on va voir une mobilisation qu'on n'a jamais vue. Mais si c'est pour le Maïndombé ou le Grand Bandundu, on ne voit absolument rien. Voilà alors aujourd'hui qu'on est à une quarantaine de morts. C'est ainsi que nous voulons que les autorités se mettent en œuvre pour venir en aide à toute cette population.
Contacté, le gouverneur de la province du Maïndombé, Lebon Kosokevani, qui confirme cette information, parle quant à lui des 22 morts. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre actualité, qu'est-ce qui se passe entre Kinshasa et Apple? En tout cas, le gouvernement congolais est allé en justice contre cette société américaine. Le porte-parole du gouvernement a livré cette information hier mardi lors du briefing de presse co-animé avec ses collègues de l'agriculture et du développement rural ici à Kinshasa. Patrick Mouyaya a indiqué que la RDC dispose des preuves attestant que ce fabricant de la marque de téléphone iPhone bénéficie du circuit sanguinaire qui entoure la production du cobalt dans l'est de la RDC. Ces propos sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
C'est la suite logique de la mise en demeure qui avait été faite il y a quelques mois. Je confirme que ce matin, nos avocats qui travaillent en coordination avec la task force pilotée par le professeur Mingan Chang ont déposé plainte, je pense, à Paris et à Bruxelles contre Apple parce que nous avons des éléments qui attestent que Apple est bénéficiaire du circuit sanguinaire qui entoure la production du cobalt, notamment avec l'agression rwandaise, parce que vous savez que le mobile de cette agression est essentiellement économique. Je n'ai pas besoin de parler de Roubaix et de tout ce qui se passe. C'est ces circuits-là. Et donc, il y a des soupçons qui font qu'aujourd'hui, au-delà de la mise à demeure qui a été faite et qui n'a pas véritablement obtenu la suite escomptée, d'aller un peu plus loin. Et donc, nous aurons l'occasion, dès les retours du professeur Mingan Chang, d'organiser un exercice de redevabilité où on pourra vous dire davantage sur la nature de plainte qui a été faite et les démarches qui sont entreprises.
Notez que dans un rapport annuel publié en 2023, Apple souligne n'avoir trouvé aucune base raisonnable pour conclure que l'une des fonderies ou raffineries des minerais comme l'étain et le tantale faisant partie de sa chaîne d'approvisionnement au 31 décembre 2023 a directement ou indirectement financé ou bénéficié à des groupes armés en RDC ou dans un pays limitrophe. Au Nord Kivu, la situation humanitaire demeure alarmante dans plusieurs villages et localités du territoire de Lubero en raison des combats entre les FRDC et le M23. À Kipese, par exemple, une localité située à environ 20 km de Lubero Centre, un afflux important de déplacés est signalé. La société civile locale appelle à une intervention rapide du gouvernement et de ses partenaires pour venir en aide à ces populations vulnérables. Les détails avec Grévis Salomon.
La majorité des déplacés, composés principalement des femmes, d'enfants et des personnes âgées, proviennent des villages de Kaseye, Hutwe, Alimbongo, Katondi, Ndoluma et Kitsombiro. Si certains sont dans des familles d'accueil, la majorité a trouvé refuge dans des églises, des hangars de marché et des écoles. Selon la société civile locale, leurs conditions de vie sont précaires et ils manquent cruellement d'assistance. Jacques Sokasonia, président de la société civile de Kipese, témoigne.
Des conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles à l'accès facile aux soins. Il y a eu même des cas de malades qui se déplaçaient avec des perfusions. Il y a difficulté d'acquérir ou de trouver même la nourriture, de l'eau potable qui devient insuffisante.
Non loin de cette localité, dans la commune rurale de Lubero, un nouvel afflux de déplacés est observé depuis 3 jours consécutifs aux violents combats dans les localités voisines de Mambasa et d'Alimbongo. La société civile rapporte que ces déplacés partent précipitamment sans rien emporter, manquent de tout et ont un besoin urgent d'assistance. L'accès à l'eau potable reste également une urgence selon nos sources. Pendant ce temps, de nouveaux déplacements des populations sont signalés à Kitsombiro et dans le centre de Lubero. Beni, Grévis Salomon, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, les affrontements ont repris depuis près d'une heure entre les FRDC et les rebelles du M23 dans le sud du territoire de Lubero. Selon des sources locales et sécuritaires, les rebelles ont attaqué la localité de Mbingi, située à 50 km de Lubero centre, chef-lieu du territoire. Les combats se poursuivent, marqués par des tirs nourris. Nous y reviendrons. Et puis la problématique de la sécurisation des sites de déplacés installés dans le territoire de Nirangongo, un véritable problème dans le Nord Kivu. Elle figure d'ailleurs à l'agenda des discussions qui se tiennent depuis hier mardi au groupement de Munigi. Cette activité, initiée par la MONUSCO Goma, regroupe les acteurs du secteur de la sécurité et les leaders communautaires du territoire de Nirangongo. Objectif, parvenir à garantir la sécurité des personnes déplacées de guerre, en même temps assurer la coexistence pacifique de ces personnes et des populations autochtones. Le point avec Chris Mukand.
Il ressort du diagnostic posé en amont que des appréhensions autour de la propriété foncière et la circulation anarchique des armes dans le territoire de Nirangongo constituent la base de l'insécurité dans la région, en général et singulièrement pour les personnes déplacées internes. Il paraissait donc urgent de rassurer les autochtones que les terres qui abritent les déplacés ne leur seront pas dépossédées. L'objectif est également d'obtenir l'engagement des responsables des unités des forces de défense et de sécurité, y compris les VDP, volontaires pour la défense de la patrie, présentes dans les Nirangongo, de réglementer la circulation des armes. Colonel Mungu Akonkwa Mokili, expert en question de gouvernance sécuritaire.
Nous sommes en train de marcher sur l'approche de la sécurité communautaire, qui facilite de remonter les informations et de voir comment décourager même certains actes criminels dans les sites. La criminalité dans les sites s'exprime autour de la circulation des armes dans les sites, qui est à la base de plusieurs tueries, de plusieurs cas de blessures. Et donc, si nous arrivons à décrocher des engagements de la part de nos partenaires sécuritaires, je crois que les caractères civils et humanitaires des sites seront respectés. Et lorsque c'est respecté, on peut déjà croire à une sécurité parfaite des déplacés.
Goma, Chris Mukand, Radio Okapi.
En Ituri, les échanges de tirs ont été signalés hier mardi entre les miliciens de la CODECO et les FRDC appuyés par les casques bleus de la MONUSCO à Largou et à Okapi dans le territoire de Djougou. C'était près après l'incursion de ce groupe armé qui progressait vers le site des déplacés, notamment de Djangui. La société civile locale dresse un bilan provisoire de 5 morts, le pillage de plusieurs maisons de commerce et le déplacement des populations. 2 militaires militaires des casques bleus sont également blessés, affirme la mission onusienne. Reportage Isaac Raymond Iopé.
Des miliciens de la CODECO venus de leurs différents bastions ont envahi mardi dans l'avant-midi certaines localités dont Ndjatchoulou, Uche, Dichou et progressé vers les centres commerciaux de Largou où ils ont pillé plusieurs boutiques, déclare la société civile locale. Ils ont été repoussés par les FARDC, appuyés par les forces de la MONUSCO. Un autre groupe de ces assaillants est passé par Drodro sans faire de dégâts et avancé vers le site des déplacés de Djangui, proche d'une base de la MONUSCO. Les casques bleus ont riposté en tirant plusieurs coups de feu pour repousser ces hommes armés. Les échanges des tirs ont duré presque 3 heures, précise des sources de la mission onusienne. La société civile déplore le meurtre de certains habitants pendant les attaques de cette milice. Des corps ont été découverts mardi et des autres ce mercredi matin vers Largou. Une femme a été également abattue à Dichou par ses assaillants. Du côté de la MONUSCO, il y a des blessés légers et des morts dans les rangs des miliciens. On signale aussi les déplacements massifs de la population dans la région. Certains ont trouvé refuge aux alentours de la base de la MONUSCO. Certains habitants commencent à regagner leur maison depuis ce mercredi matin, après une accalmie due aux interventions des forces de la MONUSCO et des FARDC. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction Sud Kivu à présent, 4 morts dans des accrochages armés entre le FARDC et un groupe Wazalendo hier mardi à Calais. L'incident s'est produit aux environs de 8 heures sur la route de dessert agricole Kalungu-Numbi, précisément à Tchebumba, village de Kalungu. Des détails avec Jean Kassami.
Des militaires FARDC de l'unité spéciale appelée Satan 2, transportant des vivres pour leur ration alimentaire de Kalungu en direction de Numbi, ont réquisitionné des civils comme portefeuille. Dans leur progression, ils ont croisé un combattant Muzalendo non armé. Ils l'ont soumis à la même corvée, mais ce dernier a résisté. Un militaire a ouvert le feu sur lui et il est mort sur les champs. Après le forfait, le meurtrier a tenté de fuir en tirant des balles réelles dans toutes les directions. Une vieille femme résidant a été atteinte. Un groupe de Wazalendo a surgi pour venger les victimes, spécialement leurs compatriotes. Ils se sont mis à tirer et 2 militaires sont tombés sous les balles. Il y a eu des blessés de part et d'autre. Les civils réquisitionnés ont fui. La psychose domine la population qui redoute des représailles. La société civile réitère sa demande au gouvernement de prendre en charge les Wazalendo et de les délocaliser dans des milieux éloignés des civils. Les sources militaires dans la région sont restées injoignables. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
La majorité des populations de la Tchopo, elle, souhaite ardemment la paix. Cela permettra aux milliers de déplacés se trouvant actuellement à Kisangani de regagner leur milieu d'origine. Ce sont là des messages d'espoir, les attentes de quelques habitants de Kisangani sur le forum pour la paix, la cohésion et le développement qu'organise le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le FONARED. Suivez les avis des uns et des autres au micro de Jacques Mukonkole.
Ce que j'attends, c'est que ce genre de barbarie cesse. Donc il faut que les gens se conforment de tout ce que les autorités sont en train de fournir comme les énergies pour qu'il y ait la paix dans notre province.
Nous avons plusieurs conflits, pas seulement conflits communautaires, nous avons des conflits fonciers, nous avons des problèmes avec nos ressources naturelles. Presque dans tous nos territoires, il y a des conflits. Alors nous voulons que la paix règne réellement dans la Tchopo.
Parce que c'est la tradition. Ici, c'est le Tikul. Chez nous, est-ce que il permis de tuer quelqu'un? Le gens prennent conscience aujourd'hui et veut revenir au bon sens. Et c'est le sens de ça. Le jeune, le vieux, le maman, c'est. Et ils disent, fini aujourd'hui. C'est pourquoi on est là pour mettre définitivement fin à cette situation.
Aujourd'hui, nous avons des déplacés dans plusieurs sites. Après la réconciliation des communautés, nos compatriotes doivent rentrer dans leurs milieux respectifs. Mais pour que cela arrive, il faudrait que les communautés se parlent pour une solution durable.
Lutte contre l'insalubrité à présent. Plusieurs villes de la RDC sont confrontées aux problèmes de gestion de déchets et immondices produits chaque jour par la population. Et plusieurs initiatives sont aussi annoncées pour faire face à ce fléau, mais peu des résultats sont remarquables. Radio Capi vous propose une série de reportages dans quelques villes sur cette épineuse question de lutte contre l'insalubrité. Nous commençons par la ville de Kalemie, où la mairie se débrouille avec les moyens de bord pour les travaux d'assainissement, comme l'explique ici Paulin Munanga.
La brigade d'assainissement de la ville de Kalemi s'adonne quotidiennement au curage des caniveaux et au désherbage. Elle balaye régulièrement la chaussée Lumumba, qui est la principale artère de la ville. Des camions chargés des immondices prennent la direction des décharges publiques qui sont situées en dehors de la ville. Cependant, le maire de Kalemi souligne que l'hôtel de ville ne dispose pas d'engin pour l'évacuation des immondices. Il se débrouille autrement. David Mukebambombo.
L'hôtel de ville de Kalemi n'a aucun engin d'assainissement. Nous sommes en train de travailler manuellement. Et lorsque nous curons le caniveau, on a du mal à évacuer même les immondices parce qu'on n'a pas le véhicule. Nous sommes obligés de prendre en location les véhicules des particuliers afin de dégager les immondices sur la ville.
Et chaque bourgmestre des communes s'occupe de l'assainissement de sa municipalité.
Chaque bourgmestre est habilité à assainir sa commune. Ce n'est pas la brigade de la mairie qui doit entrer dans des communes pour faire le travail de bourgmestre. Alors si vous trouvez que dans une commune, ça ne marche pas. Là, c'est le bourgmestre qui n'a pas travaillé.
L'autorité urbaine demande à la hiérarchie au niveau provincial et national d'assister la mairie dans les efforts d'assainissement de la ville. D'après elle, la lutte contre l'insalubrité coûte cher à sa juridiction. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, trois lingots d'or destinés à l'exportation illégale vers Dubaï ont été saisis à l'aéroport d'Antananarivo la semaine dernière. Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Pour lutter contre ces trafics illicites, les autorités malgaches ont mis en place en février dernier un guichet unique pour permettre d'exporter légalement de l'or après plusieurs années d'interdiction.
L'invité.
Les baleinières en RDC, un couteau à double tranchant, c'est le titre d'un article signé conjointement par le professeur Peter Lambert, Roger Ambongui et Emmanuel Makoka, respectivement professeur à l'Université libre de Bruxelles et visiteur à l'Université de Kisangani, tous chercheurs au centre de recherche engagé Mobeka. Dans cet article, ils expliquent les causes profondes des naufrages récurrents sur le fleuve Congo ainsi que les moyens de les endiguer. Pour en savoir plus, le professeur Peter Lambert, qui a lancé sur les flots du fleuve Congo une baleinière dénommée MB Mobeka, s'entretient ici avec Jacques Moukonkole.
Professeur Peter Lambert, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous venez de publier un article intitulé « Les baleinières en République démocratique du Congo, un couteau à double tranchant ». Comment pouvez-vous justifier cet intitulé ?
Merci beaucoup pour la question. Double tranchant, bien sûr, pour dire deux choses. D'un côté, les baleinières sont devenues incontournables en ce moment. Je pense notamment à cause de la sécurité alimentaire. Les baleinières permettent aux villes de se nourrir directement de la forêt. Et par là, je veux dire que si du jour au lendemain il n'y aurait plus de baleinières, les prix des denrées alimentaires dans les villes vont augmenter de manière à mon avis critique. La deuxième chose où les baleinières sont un véritable aboutissement, il faut le dire, c'est justement du point de vue de la mobilité des personnes. Vous savez que les barges, les masuas, barges avec pousseurs qui naviguent sur le fleuve Congo, n'ont que très rarement des dispositifs pour abriter des passagers. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles remontent le fleuve, elles veulent généralement retourner avec du bois, avec des grumes. Alors les baleinières offrent aux passagers qui eux aussi veulent naviguer et voyager, mais bien sûr aussi à tous ces innombrables commerçants et commerçantes qui assurent donc la sécurité alimentaire dans les villes et je assure donc à ces gens une mobilité. Notre tranchant, c'est justement qu'il y a bien sûr beaucoup trop d'accidents et qu'il y a un véritable problème qu'il s'agit de mieux comprendre.
Et professeur, vous ne partagez pas totalement les causes des naufrages des baleinières telles que le pense l'opinion publique. Selon vous, les causes profondes sont plutôt structurelles. Professeur Peter, comment pouvez-vous justifier votre position?
Je pense qu'il n'y a pas que des accidents qui arrivent donc, sur le fleuve Congo. Bien sûr, il y a des accidents partout qui arrivent, mais tout accident est toujours résultat de plusieurs facteurs, de plusieurs causes qui coïncident. Ça, c'est de 1. De 2, je pense qu'il est très important d'aller un peu au-delà des fautes circonstancielles des équipages qui sont souvent reprochées d'ignorer les règles et de ne pas faire la bonne navigation. Structurellement parlant, il y a d'autres causalités qu'il faut ajouter.
Que voulez-vous dire par cause structurelle ?
En fait, on peut peut-être penser à plusieurs couches de causalité qui se superposent. Bon, la première cause, je pense, structurelle est l'absence d'alternative, qui est simplement due au fait qu'il n'y a pas de sidérurgie, donc d'usine de fabrication de métal en RDC, qui peut assurer la production de tôle en masse, que toute la flotte des baleinières en bois puisse se métalliser. Une autre grande cause des accidents, il y a très souvent le facteur du manque de formation qui intervient. Cela peut être un manque de connaissances mécaniques, mais aussi du point de vue des commandants et des équipages en général, il est incontournable de professionnaliser le métier du transport.
Professeur, donc la vétusté des embarcations, l'excès des charges, l'inconscience professionnelle des armateurs et même des services publics, ne sont-elles pas des causes suffisantes pour justifier aussi ces accidents en répétition?
Oui, tout à fait. Donc, il faut ajouter ce facteur, justement, d'organisation, on peut dire, au panorama des causalités multiples. Justement, le phénomène est devenu tellement grand, les villes sont en train de devenir si grandes, donc le phénomène va davantage s'agrandir, il faut inévitablement l'organiser.
Alors, pour contribuer un tant soit peu à la réduction de ces naufrages à répétition, quelles solutions préconisez-vous?
Nous voyons notamment deux solutions. La première, c'est il faudrait arriver à vendre de l'acier au prix du bois aux acteurs du milieu. Si on faisait cela, vous allez voir que les armateurs vont eux-mêmes métalliser la flotte des baleinières. C'est pourquoi je pense que la solution donc du métal subventionné, de le vendre au prix du bois aux armateurs, va métalliser la flotte en très peu de temps. Deuxièmement, j'y ai fait déjà allusion, c'est justement les formations appropriées qu'il faudrait organiser. C'est-à-dire qu'il est le capitaine, le commandant de baleinière qui n'a pas été au banc d'école pour apprendre le français, dont il n'a vraiment pas besoin aussi dans le monde où il travaille. Il sait d'ailleurs très bien lire l'eau, Tanga Mai. Il sait très bien identifier où trouve le meilleur passage. Ce qu'il faudrait faire, c'est donc faire des formations appropriées en Lingala ou bien en d'autres langues, bien sûr, si l'on le veut.
Professeur Peter Lambert, merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebouchangwe, à Élisée Chikota et Dieudonné Nyankasa. Bon après-midi à tous.